Bonjour.
Heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission consacrée au jeu.
Oui, la dernière fois nous avions évoqué l'explosion du jeu et la bascule vers un style de jeu plus moderne, entendez par là plus rapide, plus immédiat et plus facile à appréhender.
Et donc s'adressant à plus de monde. Oui. Pour cette émission, nous avons choisi de vous présenter quelques lieux où le jeu de société a pris une place importante. Mmh. On laisse la parole maintenant à Nicolas Soubiès pour présenter son établissement.
Donc, la Muche Café, c'est donc un établissement qui est un restaurant, un bar et un salon de jeux de société. On existe depuis maintenant 10 ans. Donc, on vient manger, on vient boire un coup et on met aussi à disposition un animateur qui va venir expliquer des jeux ou mettre en ambiance autour du jeu de société, mais aussi ça peut être autour d'autres types d'animations ludiques.
Moi, je tiens à ce que le jeu ici ne soit pas payant et que quand on a créé l'économie et le modèle économique du lieu, c'était de se dire que finalement, il fallait que le lieu se paie par une économie traditionnelle. Donc nous, on a choisi tout simplement le bar et le restaurant. Donc c'est la restauration qui paye tout. Par contre, on ne fait pas payer du tout le jeu. Et ça, c'est un peu philosophique depuis le début, puisque l'idée, c'était comment faire de la promotion d'un média culturel si tu mets un péage.
Et des lieux comme la Muse Café, il en existe de nombreux autres. Par contre, on se retrouve dans le même embarras pour parler de chiffres. Car Maxime, aucune étude n'a été menée encore de manière sérieuse.
Eh oui.
Par contre, ce qui est évident, c'est que le bar à jeux crée des vocations. Il s'en ouvre de plus en plus, et peu importe la taille de la ville, c'est donc pour moi, pour nous, un signe de bonne santé manifeste.
Et un sociologue spécialisé dans le jeu à l'université Paris-Descartes nous rappelle que le café est un espace de sociabilisation historique en France. On y jouait aux cartes avant, et il paraît donc logique d'intégrer le jeu de société dans cet espace du quotidien des Français.
C'est ce même sociologue du nom d'Aurélien Fouillet qui nous explique que l'on vit dans une société avec beaucoup de rationalisation et d'isolation urbaine.
Oui.
Le jeu permet de prendre le contre-pied de cela. On l'a vu, c'est un espace de socialisation, mais aussi un espace d'aventure. Il y a un début, une fin, c'est une projection dans un fantasme désirable sans conséquence sur le reste de la vie. C'est lui qui le dit. Hein. C'est ce qui doit expliquer que les bars à jeux et les lieux où l'adulte peut jouer rencontrent un tel succès.
Et en plus des bars à jeux, on voit apparaître des restaurants qui joue la carte de la gastronomie en alliant le jeu de société avec la nourriture, comme le restaurant Food and the Game, dont nous avons entendu le gérant, Rodolphe Chambonneau, lors de notre première émission.
Oui, les boutiques de jeux également permettent, lors des soirées jeux, aux clients de se rencontrer autour de leur passion. Les ludothèques, bien sûr, elles aussi organisent des soirées jeux sur le modèle des magasins de jeux et permettent le reste du temps de jouer sur place ou d'emprunter des jeux.
Et on voit arriver également de plus en plus de ludomédiathèques.
Ah oui.
Dans ce lieu, les jeux de société sont mélangés aux livres. On y trouve un ou des bibliothécaires et un ou des ludothécaires qui travaillent du coup ensemble. Ces lieux sont des endroits publics de liens sociaux et intergénérationnels.
Alors, quand elles n'ont pas l'appellation ludomédiathèque, les bibliothèques commencent également à incorporer le jeu dans leur structure. Tout ça est le signe qu'un public est demandeur de ce loisir, et ce public est d'ailleurs très varié.
Comme nous l'indique Rodolphe Chambonneau du restaurant jeu.
On fait une cuisine relativement qualitative, on va avoir beaucoup de trentenaires, quadragénaires et au-delà, c'est-à-dire une génération de joueurs qui arrivent maintenant, qui ont commencé le jeu au moment où le jeu a commencé à vraiment se démocratiser, et qui ont des attentes un petit peu différentes de celles des étudiants. Du point de vue du jeu, il y a un peu de tout en vérité. On a des débutants, on a des néophytes qui viennent par curiosité, qui viennent pour déjeuner, qui voient les jeux et qui se disent « Ah bah tiens, puisque c'est gratuit, je vais essayer. » Et on a fait, en tout cas j'espère, pas mal de conversions à ce beau hobby. On va avoir des joueurs confirmés qui nous appellent pour nous demander un jeu en particulier que parfois on amène carrément de la réserve. Que dire d'autre ? Voilà, donc c'est un public très 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 protéiforme. On a aussi des familles, des grands-parents avec les petits-enfants pendant les vacances qui cherchent un endroit un peu particulier, un peu décalé, et qui viennent ici en arrivant, en pensant au Monopoly, au Cluedo, et qui découvrent que les jeux qu'on a sont très 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 différents. On a tous commencé avec le Monopoly, le Cluedo, moi le premier, mais on a des jeux beaucoup plus aboutis, beaucoup mieux édités, beaucoup mieux faits, qui mettent à l'intelligence des enfants à bien plus rude épreuve, et où il ne s'agit pas de lancer un dé pour être performant. Quoi. Et on va avoir des familles de 11 personnes, où ça va de 7 à 72 ans, ça c'est du vécu. Et il faut dire aussi qu'on a un sujet qui est particulièrement séduisant, je veux dire, le jeu de société, vous n'êtes pas là par hasard, hein. C'est un loisir magnifique, et pour peu qu'on soit passionné, comme je pense pouvoir dire qu'on l'est, c'est pas difficile de transmettre une passion aussi attachante. Je veux dire, c'est vraiment un loisir qui ressemble à aucun autre.
Et finalement, bien qu'il parle de son restaurant, on s'aperçoit que ses publics ne sont pas si différents que ceux que l'on trouve dans les autres lieux.
Et ouais, tout à fait. Le jeu parle à tous les âges et permet tout type d'expérience. Les enfants, les parents, les personnes âgées peuvent se retrouver en jeu, que ce soit dans un bar, dans l'après-midi, une ludothèque ou ailleurs.
Et on a vu que le jeu a évolué au cours de ces dernières années et on s'aperçoit qu'avec lui, le public aussi. D'un loisir de niche, on est passé à quelque chose de beaucoup plus populaire. Nicolas Soubiès tire les mêmes conclusions que son homologue sur la diversité des publics.
Ce qui fait que notre public à nous aujourd'hui a vachement évolué depuis le début, puisqu'on se retrouve d'un public où on avait beaucoup de gamers qui venaient, donc on était avec peu de monde, et aujourd'hui on est avec des publics qui est à majorité à 70% de novices, des gens qui n'ont pas forcément joué toute leur vie ou ont joué il y a très très longtemps et se disent voilà, qu'est-ce que c'est ce mur de jeu ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes ? Et il y a une forme de curiosité qui est très très intéressante et très rafraîchissante pour nous.
Ouais, une autre idée intéressante nous a été amenée par Fanny Boucard lorsque nous sommes allés la rencontrer dans sa boutique. Cette idée, c'est que certains jeux modernes sont eux-mêmes intergénérationnels et permettent une transmission.
Alors déjà, par exemple, Magic, c'est un jeu qui a sorti dans les années 90. Donc maintenant, on voit les générations, on voit les parents qui initient leurs enfants. Donc ça va presque devenir quelque chose de familial. Ça, avant, c'était pas du tout ça.
Et c'est très intéressant, cette idée de transmission d'un simple paquet de cartes, comme on transmet une collection de livres. Le jeu moderne rentre dans une culture vraiment familiale, en fait, au même titre que les échecs qui ont été transmis au fil du temps.
Ouais, les échecs, comme d'autres jeux classiques, hein. Est-ce que Magic ne deviendra pas le jeu d'échecs des générations futures ?
C'est une question qu'on est en droit de se poser.
Et si on revenait sur nos lieux de jeu, Maxime, les bars à jeux rencontrent du succès, grâce au lien social qu'ils créent entre les joueurs d'une même table, mais au-delà, comme nous l'explique Nicolas Soubiès.
C'est un peu ça, hein. On ne sort plus dans un bar comme on sortait dans un bar avant. Juste avec de la musique, on ne s'entend plus. On avait besoin de s'entendre, après on avait besoin de se parler, et puis on a besoin de s'occuper en parlant. Et je pense que c'est à travers toutes ces activités-là, c'est l'activité humaine finalement, d'après-travail, qui va orienter notre façon de voir le jeu, notre façon d'organiser ces temps de jeu finalement.
Et le jeu n'est donc pas qu'un objet, qu'une boîte en carton que l'on pose sur la table, c'est aussi un outil de médiation, un prétexte à la rencontre avec les autres.
Comme un outil de socialisation, tu veux dire ?
Oui, c'est là-dessus que jouent les bars à jeux pour fidéliser leur public. Hein. Des groupes peuvent se créer et être encouragés du coup à revenir. L'idée que l'on peut rencontrer d'autres personnes et que le jeu va faire office de brise-glace est rassurante dans la rencontre avec l'autre.
Moi, je trouve que ce que je trouve assez sympa dans nos soirées-là, c'est quand t'as des tables qui s'interpellent parce qu'un point de règle n'a pas été compris ou ils cherchent l'animateur et l'animateur ou moi-même n'est pas visible et ils se répondent. Et là, quelque part, je me dis, on a gagné quelque chose. On a gagné le temps d'un moment, le fait que les gens ne se connaissent pas vont se parler naturellement et grâce à ce vecteur-là.
Nicolas Soubiès est un ancien éducateur qui a longtemps travaillé sur la notion de lien et on ressent dans sa vision du bar à jeu cette préoccupation de donner du sens à son lieu, de permettre l'échange entre les gens.
Et le jeu permet cela. La synergie d'un outil comme le jeu et d'un lieu comme le bar ou le restaurant amène à redonner du sens à des endroits qui n'étaient que des endroits de consommation en fait. Et Rodolphe Chambonneau nous en parle également.
Moi, s'il y a une chose que je retiens, parce qu'elle a présidé à la création de mon entreprise et à son activité au jour le jour, c'est la notion de lien. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je pense que c'est extrêmement important de créer des entreprises qui créent du lien. Pourquoi le jeu fonctionne si bien en ce moment ? C'est une question qu'on ne s'est pas encore posée dans l'entretien, mais je pense que ça tient à plein de choses. D'abord, je pense que les choses étant ce qu'elles sont, les gens ont moins de moyens et que le jeu reste un loisir abordable. C'est un truc qu'on peut faire collectivement, c'est un truc qui resserre. Il y a certains jeux qui sont très chers, évidemment, mais il y en a aussi qui ont des prix très modiques sur lesquels on peut passer de très bons moments à plusieurs. Et quand on est autour d'une table de jeux de société, dans la majeure partie des cas, je pense pas à ceux qui utilisent une app, bien sûr, on va se retrouver autour d'une table. Et là, on va créer du lien. Parce que on va discuter autour d'une table de jeu. C'est pas une action statique, on va ne faire que jouer. On va discuter, on va chambrer, on va échanger. Tiens, qu'est-ce que t'as fait cette semaine, machin. Et il y a cette espèce de citation, on ne saura jamais si elle est apocryphe, ni surtout de qui elle est, mais qui dit « j'en apprends plus en jouant avec quelqu'un pendant une heure qu'en discutant avec lui pendant un an ». Et c'est pas loin d'être vrai. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Et c'est ça qui est beau dans le jeu. C'est cette notion de créer du lien et d'avoir une activité qui fasse sens. Parce que je veux avoir de l'échange avec ma famille, avec mes amis, avec des gens que je connais pas. Pourquoi pas, on a fait, nous... un jeudi par mois, la soirée entre jeux, des gens qui connaissent pas de joueurs viennent rencontrer d'autres joueurs. Et je suis toujours extrêmement surpris par le côté terriblement ouvert de la communauté ludique. C'est vraiment frappant. Il y a vraiment une vraie osmose, une vraie synergie. Il y a des assos, je sais, qui organisent des soirées où on se connaît pas, on s'inscrit, on y va et on joue. Voilà. Et je trouve ça super parce que pour moi, ça résume, c'est le jeu de société. C'est vraiment ça. Le cœur du cœur de l'idée, elle est là. C'est cette notion de lien. Un loisir qui permet de se réunir autour d'une table, loin d'un écran, dans l'échange, en passant un bon moment et en s'évadant un petit peu de son quotidien, je vois pas beaucoup d'autres loisirs collectifs. Parce que sinon, pour rester les bouquins ou les films, bien sûr, mais quel genre de loisir peut procurer ce genre de plaisir ?
Waouh, que rajouter de plus ? Je crois que tout est dit. Ouais, on a au moins la preuve que ceux qui font ce métier ne sont pas que des commerçants. Ils y rajoutent également une dose de socio-culturel, et ça n'est peut-être pas un hasard si ces lieux se multiplient en France. Nous vous rappelons d'ailleurs qu'à Blois, vous aurez bientôt l'occasion d'exercer votre lien social à la Taverne du Nain, un bar à jeux qui ouvrira prochainement selon nos informations.
Merci Thomas, et c'est l'heure de notre pastille.
Miam miam, tu vas nous parler d'un jeu bien spécial qui entretient à sa manière l'écoute et le lien entre les joueurs qui le pratiquent, je crois.
C'est ça, il s'agit de The Mind, un petit jeu créé par un psychologue allemand, Wolfgang Warsch.
Un jeu coopératif.
C'est ça, tout le monde gagne ou tout le monde perd. Le jeu comporte 100 cartes, numérotées chacune de 1 à 100, ainsi que des cartes représentant nos vies et des cartes Joker. Les cartes numérotées sont mélangées, puis les joueurs se voient distribuer un nombre de cartes égal au niveau en cours. Par exemple, on prend une carte chacun pour le niveau 1.
Ok, je vois. Et alors, quel est le but du jeu ?
Et le but du jeu est très simple. Il faut que les joueurs posent leurs cartes par ordre croissant au centre de la table. Il n'y a pas d'ordre de jeu, chaque joueur peut jouer quand il veut, et surtout, il n'y a pas de communication autorisée entre les joueurs.
Donc on commence au niveau 1, et alors comment on passe au niveau supérieur ?
Si tous les joueurs placent toutes leurs cartes dans le bon ordre, ils ont réussi le niveau, et alors on peut passer au niveau suivant.
Ok, et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un pose une carte dans le mauvais ordre ?
Si jamais un joueur pose une carte dans le mauvais ordre, le jeu s'interrompt par le ou les joueurs qui ont une carte plus basse que celle qui vient d'être jouée, l'équipe perd une carte vie, elle en a autant que le nombre de joueurs qui la constituent, et le jeu reprend.
Oh, aussi simple que cela. Alors c'est quoi ces cartes joker dont tu nous parlais ?
Dans un cas vraiment de doute, un joueur peut choisir de proposer un joker en levant la main. Si tous les joueurs sont d'accord, chacun d'eux défausse la carte la plus basse dans leur main, la carte joker est retirée du jeu. La partie se termine soit lorsque l'équipe n'a plus de vie, soit lorsqu'elle a réussi le 12e niveau, et c'est donc la victoire.
Ouais, c'est un jeu assez unique que ce jeu. On parlait de surproduction ludique dans la première émission, mais de temps en temps, il sort des jeux qui apportent une autre sensation, une autre expérience.
Oui, ce qui est très intéressant et quelque part un peu mystique dans The Mind, c'est que c'est un jeu de perception du temps et de synchronisation. Plus la carte est basse, et plus j'aurai envie de la jouer vite. Même chose pour une carte plus haute que je ne jouerai que plus tardivement.
Ouais, du coup, ça n'est pas un peu que de la chance pour arriver à poser les cartes dans le bon ordre sans se parler ?
Pas vraiment, Thomas. Ce que l'on découvre, c'est que plus les joueurs jouent ensemble, plus ils deviendront à même de savoir quand jouer leurs cartes. Ce qui, au départ, dans The Mind, pourrait être considéré comme de la chance, devient après quelques parties une véritable compétence. Ici, on a adoré cette sensation de vivre un moment partagé, et l'exultation après que l'équipe ait réussi à se débarrasser de toutes ses cartes sans faire d'erreur.
Ok, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés, merci à Charles Jouteux et à la radio Studio Zef de nous permettre de vous faire découvrir ce loisir, qui n'est pas qu'un loisir.
Dans notre société, le jeu a du sens, et vous le verrez dans la dernière émission qui nous reste à passer ensemble.
Oh, la dernière déjà ?
Ah oui, déjà, mais vous pouvez nous réécouter en podcast et donner votre avis sur cette émission.
Donc, on vous donne rendez-vous pour la dernière émission qui sera entièrement consacrée à la ludothèque, les jeux qu'on y pratique et les formations qui existent pour faire ce chouette métier. Excellente journée à vous.
Et à bientôt.